Si je meurs, quelle empreinte je laisse derrière moi? Qu'est-ce que je laisse derrière moi, tu vois? Si je meurs, qu'est-ce qui va se passer pour moi, tu vois? Aujourd'hui, ma mère, elle est morte, mais il y a plein de femmes qui font des doigts pour elle, les voisines, les amis, tous ceux qui témoignent en bien de ce qu'elle a fait, tu vois. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Je disais, j'avais une espèce d'urgence, et surtout quand je lisais du livre, honnêtement, j'avais une espèce de stress permanent dans ma tête qui me disait, vite, écris-le, il faut que tu publies, il faut que tu publies, il faut que tu publies. C'est comme si j'avais peur de mourir avant de l'avoir terminé. Je me disais, il faut qu'il sorte vite. Et d'ailleurs, honnêtement, dès qu'il a été publié, j'ai ressenti un grand soulagement.
Plus tu nies en fait le fait que tu vas mourir, plus tu es dans un espèce de déni qui t'emmène loin, loin, loin dans la dunya, à faire des erreurs, à t'éloigner d'Allah. Alors qu'en fait, plus tu es au contact de la mort, plus tu te dis, mais c'est pas grave en fait, c'est quoi la mort? Face à ce qui nous attend, c'est une pause. En fait, c'est une pause avant les grandes retrouvailles. Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Dans la seconde partie de cet épisode, Oumaïma et moi poursuivons notre conversation sur l'amour en Allah jusqu'à parvenir à poser des mots, à donner une définition, à un concept d'une beauté sans nom. L'amour en Allah est une graine qui nécessite que l'on sème. L'amour en Allah nécessite du temps, de la patience, des actions. En somme, on est loin du concept du coup de foudre, ce sentiment très séduisant, mais qui, bien souvent, après trois petits tours, s'en va et ne revient pas. Avec Oumaïma, on parle de cet amour fertile, de tous les fruits que Reltinagé a récoltés et de ceux qu'elle n'aura pas eu l'occasion de savourer. On a aussi parlé de ses graines à elle, de comment l'idée de son beau livre a germé, de ce que cela lui a coûté de planter les bases de son premier ouvrage, et ce, jusqu'à le faire éclore un matin de printemps, presque tout naturellement. Quand on aime, on s'aime. Enfin, on finit par aborder la question de la mort, de la façon dont on peut préparer la sienne, de la manière dont certaines peuvent être de magnifiques rappels que rien n'est éternel. Rien n'est éternel, hormis l'existence, la force et l'amour de celui qui nous aime, plus qu'on ne saura jamais aimer nous-mêmes. Sans plus tarder, je vous laisse vous délecter de notre conversation et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Il y aurait tellement encore à dire sur l'amour en Allah, mais tu nous as déjà dit tellement de choses. Mais je vais quand même, je voudrais qu'on conclue sur ce thème-là avant de partir doucement vers ton livre, même si finalement on en a déjà beaucoup parlé. Subhanallah, je pense que là vraiment les personnes qui ne l'ont pas lu, vous aurez bien compris qu'il y a urgence à le commander. Mais je voudrais lire un passage de ton ouvrage, Oumaïma, parce qu'en fait, je trouve que ça traduit, ça définit parfaitement ce que c'est que la mahabba fillah. Tu veux bien?
Oui, bien sûr.
Alors, je pense que c'est un passage dont tu vas te souvenir assez facilement. Je t'en dis pas plus, je vais commencer ma lecture. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma oumi d'amour, uhibbuki fillah. Merci de croire en moi, merci de me soutenir pour réaliser mes rêves, et merci pour le plus important, m'avoir fait connaître Allah, et m'avoir appris le but de notre vie, que rien ne dure sur terre, qu'on n'emporte avec nous que nos œuvres, et l'amour qui est dans nos cœurs. Une fois, tu m'as lu ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu es avec ceux que tu as aimés. » Et moi, je t'aime si fort. Je ne peux rien espérer de plus qu'être avec toi au paradis. Je pense qu'on est toutes d'accord ici présentes. Ma mère est quelqu'un de spécial. Et même si je n'étais pas ta fille, je t'aimerais. Ça, pour moi, cette dernière phrase, bon déjà, ça me donne des frissons, c'est pas normal. Mais surtout, je me dis, en fait, c'est ça l'amour filet. Même si tu n'étais pas ma mère, je t'aimerais. C'est ça que les personnes qui pensent que l'amour filet, c'est un amour intéressé, doivent comprendre. Justement, l'amour filet, c'est de se dire, même si on ne me demandait pas de t'aimer, je t'aimerais. C'est pas si Allah me demandait pas, je t'aimerais pas, non. Même si Allah me demandait pas, je t'aimerais parce que j'ai vu ce qu'il y a en toi, j'ai vu ton âme.
En tout cas, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. C'est pendant là, tu vois, j'ai écrit ce texte pour. J'avais fait mon mariage le 9 juillet 2016 et j'ai tenu à faire un petit discours. Et aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Et mon discours commençait avec ça, tu vois. C'était le petit mot pour ma maman. Et ce prénom là, mais parce que c'est réel, tu vois, ma mère m'a toujours beaucoup inspirée. Hein, parce que, tu vois, encore une fois, regarde, quelqu'un qui est proche d'Allah, quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui a une relation forte et intime, et de confidence presque, tu vois, avec Allah. Je sais pas comment t'expliquer, mais tu le ressens, en fait. Et moi, je ressentais combien elle avait ce lien spécial avec Allah. Et du coup, je l'admirais. Elle m'inspirait, c'était un modèle. Ma mère a toujours été un modèle pour moi. Et je me disais, mais c'est une femme incroyable, tu vois. Et vraiment, tu vois, elle me touchait, quoi. Elle me touchait au-delà de ma relation. Parce que je voyais comment elle était. Et cela, je parle également pour toi, celles qui nous entendent, les mamans et tout. On est vraiment des modèles, en fait, pour nos enfants, tu vois. Et je me dis, elle a été vraiment un modèle d'inspiration. Et je suis hyper reconnaissante envers la Sainte, tu vois, de me l'avoir donnée, de m'avoir mis, comment dire, d'avoir fait en sorte que sur cette terre, ça soit elle, ma maman, alhamdoulilah. Après, bien sûr,
Alhamdulillah.
c'était pas un ange, hein, c'est des défauts et tout, mais je pense que c'est ça aussi l'amour filial, c'est que bah, finalement, tu vois plus trop les défauts, quoi. Tu sais qu'il y a des défauts, ils sont là et tout, bon voilà, mais en tout cas, aujourd'hui, je vois plus du tout ces défauts, quoi. Je veux dire, et même à l'époque, les qualités, la foi, l'amour pour Allah, sa relation qu'elle avait, bah, ça
Ça
dépassait
supplante le
tout
reste, en fait. Ouais, c'est
le reste.
ça. Mais tu vois, j'aime bien le fait que tu le dises parce qu'en fait, encore une fois, ça permet de comprendre que l'amour filial, c'est un amour qui est sincère. C'est juste que tu vas au-delà, en fait, des défauts de la personne, qu'il soit physique ou moral, en fait. C'est ça, l'amour à Allah, encore une fois, c'est de se dire, je vois plus que ton âme. Je vois pas, je sais pas moi, ce nez trop grand, ces mains trop petites, ces défauts de caractère. Non, je sais qu'ils sont là, mais en fait, ça, je les vois même plus. Ça ne m'intéresse pas parce que j'ai réussi à t'aimer en Allah. Et c'est l'amour qu'Allah il a mis entre nous, c'est un amour tellement fort qu'on s'aime et qu'on se le dit, on se le montre, et Inch'Allah, on chemine ensemble vers le paradis. Mais ça me tenait à cœur, en fait, de partager ce passage-là, parce qu'en fait, comme tu l'as très bien dit, c'est un texte que tu as écrit pour ton mariage. Donc, ta maman n'était pas encore malade, cette grande étape de ta vie n'avait pas encore été franchie, et pourtant, la mahabba fillah était déjà là. Donc, quelque part, je pense que j'ai choisi ce passage-là pour réinsister auprès de nous tous pour se dire à quel point la mahabba fillah, c'est avant tout une graine. D'ailleurs, le hub, l'amour, étymologiquement, c'est l'amour graine, en fait. C'est l'amour que tu plantes. C'est ça, le hub.
Ah, je
La
savais pas.
mahabba, c'est une personne, justement, qui a témoigné sur ce podcast-là, qui nous rappelait un petit peu l'étymologie. Et tu sais, hub, je crois que c'est la graine, justement, en arabe. Ou c'est le fait de planter, un des deux, Allahu a'lam. Je crois que c'est la graine. Donc, c'est un amour-graine. Plantons cet amour-là, en fait. Et après, Inch'Allah, on en récoltera les fruits. Peut-être que nous, on ne le verra pas dans cette vie. Peut-être qu'Allah, il rappellera nos âmes trop tôt, entre guillemets, pour qu'on puisse voir que nos enfants prier pour nous, faire des œuvres pour nous, laisser leurs traces à leur manière, comme toi, tu peux le faire. Mais c'est pas grave. Ce qu'on doit faire, c'est planter. Il y a un hadith aussi où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un lui dit mais en gros, si je meurs demain, à quoi ça sert? Si j'ai une graine entre les mains, pourquoi je vais la planter? Il dit, ah non. Ah non, non, même si tu sais que la fin du monde, elle arrive là dans 3 secondes, tu dois planter. Le croyant, il plante, même si derrière, c'est la fin. Parce que quand on a quelque chose entre les mains, c'est notre responsabilité de le faire grandir. Et c'est exactement ce qui s'est passé à travers ton livre.
Ouais, subhanallah, c'est vrai. Mon livre, je l'ai fait un peu comme ça, tu vois, comme ma mère, elle a semé ses graines, tu vois, et subhanallah, il s'est passé vraiment des très belles choses, c'est-à-dire que les graines ont donné des résultats incroyables, déjà par rapport à la mahabbah au moment même de la mort. Je veux dire, avant sa mort, au moment de sa maladie, les sœurs, elles ont fait des trucs pour elle, c'était incroyable. Elle venait la voir à l'hôpital en lui ramenant plein de trucs à manger, tous les plats qu'elle aimait. Il venait à la maison faire le ménage, préparer tout le temps des repas. Il y avait tout le temps plein de repas chez moi. Toute la phase où ma mère était malade, il y avait tout le temps. On dirait qu'elle se donnait le mot et chaque jour, il y avait un plat, il y avait des repas, il y avait des trucs et tout, subhanallah.
Ça.
C'était assez incroyable. Et moi, je me rappelle aussi, tu vois, quelques jours avant que ma mère elle rentre en agonie, donc on était quand même sur la fin, elles sont venues, elles lui ont fait une... Parce que ma mère, elle aimait trop les hammams maison, les trucs comme ça et tout. Et en fait, elles lui ont fait ça, tu vois. Alors que, tu sais, elle était, à la base, elle était sur son lit d'hospitalisation. Alors, tu sais, c'était la petite toilette de chat, quoi, hein, qu'elle faisait l'infirmière. C'était pas... Et elles ont compris ma mère, elles sont venues à plusieurs, elles l'ont portée jusqu'à la baignoire, elles lui ont fait vraiment la douche que ma mère, elle aime et tout ça. Et en fait, elles ont fait des choses, elles sont venues, elles ont fait un grand ménage chez moi et tout, c'était incroyable. Elles étaient au service de ma mère. Elles étaient au service de ma mère. C'était... Ma mère disait, ok, bon. C'est pas mal. Et ma mère, tu vois, les mamans qui lâchent pas prise jusqu'à la fin, en mode, bon, ok, j'ai bientôt mourir. Ok, faut faire le tri là du placard là-bas, tu vois, il y a trop de trucs qui servent à rien. Non, mais qui a vu ça? Qui a vu ça? Non, mais ma mère, elle était incroyable. Et je te promets, hein, elle a fait le tri du placard qu'elle voulait se débarrasser avant de mourir, parce que
je vais pas mourir. Ça reste sur ma conscience. Subhanallah. C'est dingue.
Tu sais, quand t'es mère, soit t'es mère de 8 enfants, soit t'es pas mère de 8 enfants. Tu vois, quand t'es mère de 8 enfants, t'as la charge mentale. De toute façon,
il y a elle et il y a nous, en fait, clairement, d'accord. Il y a les mères de familles nombreuses et il y a les autres, d'accord. Oui. D'où on fait partie, hein, on est bien d'accord.
Ouais, ça, non, mais je suis morte. Mais franchement, elle faisait délirer ma mère. Et donc, elle avait ce truc. Et en fait, elles ont été là. Elles ont été là pour soulager ma mère. Ma mère ne pouvait pas faire. Ma mère, de me dire, elle était sans d'hospitalisation. Et ça lui faisait plaisir de les voir refaire le grand ménage et faire ça. Et ah, elle était là. Alhamdoulilah et tout. Quand j'y repense, je me dis, mais c'est magnifique. Franchement, c'est beau. Elles ont été vraiment très présentes pour elle, même après la mort. Elles sont venues, elles ont été incroyables. Moi, j'étais dans ma bulle et à un moment donné, en fait, j'ai rien fait. C'est-à-dire que sinon, je vois beaucoup aujourd'hui des personnes, tu sais, quand il y a un décès, ben, elles ont pas le temps de faire leur deuil, de vivre le moment présent. Mais tac, 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 faut vite faire le ménage, vous préparez les petits plats, les gâteaux, les machins, le thé, les gens vont venir, attention, faut que tout soit nickel. Bon, je fais une petite digression. Qui m'a raconté, je sais pas si c'était ma mère ou une amie à ma mère qui me faisait trop rire. Elle disait que, genre, il y a eu un mort au bled, et genre, je sais pas, son mari est mort, un truc comme ça. Et la femme, elle dit, oh! Elle dit, attention, la femme, elle se met à pleurer, et je sais pas qui, à sa soeur, ou je sais pas quoi, qui dit, oh! Chut, 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 ne parle pas, ne dis rien, ne fais rien. D'abord, tu fais le ménage, tu fais tout nickel la maison, et après, tu pleures, tu dis, mon mari, il est mort, venez, et tout. Les gens, ils viennent pas alors que ta maison, elle est comme ça, tu vois.
Subhanallah, c'est dingue.
Enfin bon, bref. Bon.
Mais tu vois, c'est un peu les dérives aussi de notre mentalité, en fait, de se dire que ben on s'oublie vraiment pour le regard des autres en se disant mais non, les gens ils vont pas venir chez toi. Et d'un côté, c'est une manière de se tenir, tu vois. Et c'est important de se tenir en tant qu'être humain, parce que par exemple, dans des cas extrêmes, par exemple, quand tu pars en dépression, tu te tiens plus, tu te douches plus, ta maison elle est pas rangée. Donc en fait, se tenir, c'est une manière de tenir droit en tant qu'être humain. Mais c'est vrai que subhanallah, on a emmené ça à un level qui parfois nous a. Oui, c'est ça, qui a clairement parfois créé des dérives. Mais si on revient sur ton ouvrage, est-ce que tu peux nous expliquer? C'est quoi le déclic qui a fait que toi aussi, tu as voulu reprendre le flambeau en fait, de cette mahabba fillah à travers un ouvrage? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, non, je vais le faire? Parce qu'en fait, on sait comment ça marche. Hein. On a des idées, on a des envies, et parfois, ça dure toute la vie. Parfois, d'ailleurs, ces idées-là ne se concrétisent jamais. À quel moment, toi, tu t'es dit, non, en fait, j'ai l'idée, et en plus, je vais la faire?
En fait, après la mort de ma mère, j'ai ressenti une urgence de semer ma propre graine. J'ai ressenti une urgence de faire quelque chose pour en voir les fruits. Parce que, comme je sais, ma mère, elle a fait des choses et elle en a vu les fruits à la fois de son vivant et à la fois après sa mort. Tu vois, comment les femmes se sont comportées avec nous, etc. Tu ressentais qu'il y avait cette notion de « je le fais pour l'amour que j'avais pour ta mère, pour Allah », tu vois. Voilà. Et en fait, au-delà de ça, il y a eu les fruits des résultats, tu vois, des personnes qui ont porté le hijab, des personnes, tu vois, qui après, moi, par exemple, j'ai une amie qui me contacte en me disant, ta mère m'a appris à lire l'arabe quand j'étais plus jeune, j'étais pas dans le djinn, j'étais vite fait et tout, elle m'a appris à lire l'arabe, aujourd'hui j'ai des enfants, je leur apprends à lire l'arabe, et aujourd'hui, elle leur disait donc, tu sais, chaque fois que tu récites une lettre dans ce Coran, tu as dit Hassanet. Moi, j'ai dit Hassanet parce que je t'ai appris. Et Khatinaji, elle a dit Hassanet parce que c'est elle qui m'a appris. Tu vois, et aujourd'hui, et subhanallah, bah, une de ses filles, de cette personne-là, elle a appris le Coran en entier. Tu vois.
Waouh.
Je crois que je te l'avais dit. Je l'ai su récemment. Je l'ai su il y a quelques semaines. Elle vient de retirer le Coran à 13 ans. Hein. Elle a 13 ans, la jeune fille.
Subhanallah.
Un truc de fou, subhanallah. Et donc, C'est ça en fait les graines que tu sèmes et c'est ça les résultats que tu peux obtenir. Et vraiment qu'Allah accepte cette œuvre-là et que qu'Allah récompense Oumi pour cette œuvre-là. Parce que oui, à un
Amin.
moment donné, elle a dit, je vais réunir les jeunes de mon quartier et je vais leur apprendre à lire l'arabe. Voilà, je vais leur apprendre les lettres, etc., etc. Elle a eu la patience, elle a pris le temps de faire ça alors qu'elle avait 8 gosses et tout. Et donc, c'est ça, semer des graines. Et Oumi, elle est morte et j'ai bien senti qu'elle avait semé ses graines, elle avait fait sa part. Et en fait, le truc, c'est que après ça, moi, il y a deux choses qui s'est passées. La première, c'est que j'ai ressenti l'urgence de semer mes graines, de faire pareil. C'est-à-dire que je me disais, mince, si je meurs, quelle empreinte je laisse derrière moi? Qu'est-ce que je laisse derrière moi, tu vois? Si je meurs, qu'est-ce qui va se passer pour moi, tu vois? Aujourd'hui, ma mère, elle est morte, mais il y a plein de femmes qui font des doigts pour elle, les voisines, les amis, tous ceux comment dire, qui témoignent en bien de ce qu'elle a fait, tu vois. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Donc, je ressentais un fort besoin de faire quelque chose. Je disais, Yallah, qu'est-ce que... Mais à l'époque, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire et ce n'était pas forcément le livre qui m'est venu en tête. Ce qui se passe, c'est que, tu vois, par rapport à mon deuil difficile, etc., je ressens le besoin d'extérioriser, de raconter mon histoire. Et quand je commence à raconter mon histoire, eh bien, les gens, ils sont choqués, tu vois. Comment ça, la mort de ta mère, la lutte, la mort de ta mère, c'était le plus beau de ta vie. Mais c'est incroyable, je racontais l'histoire, ils étaient là, mais attends, mais on n'a jamais entendu ça, mais c'est incroyable, tu devrais en faire un livre. Il y a eu cette idée est venue de l'extérieur, de tu devrais raconter l'histoire de ta mère. Et à ce moment-là, ça me fait tilt, et je me dis, mais oui, c'est vrai. Et en plus, au moment où j'écris le livre, tu sais, avant même d'écrire la moindre ligne, je me suis posée, parce que c'est vraiment quelque chose que je vous invite tout le monde à faire, c'est de dire pourquoi je fais les choses, de réfléchir à l'intention que je mets derrière. Quel que soit ce que tu fais, surtout si tu as un projet et tout ambitieux, te dire mais en fait pourquoi je fais ça? C'est quoi l'intention? Pour qui je fais ça? C'est quoi le but derrière? Et moi je me suis posée, j'ai pris le temps vraiment d'écrire, de réfléchir là-dessus. Et en vrai j'avais plusieurs raisons, mais parmi les plus importantes, c'était le faire pour Allah, pour que moi je laisse une trace derrière moi. Je me disais si je meurs et que j'ai publié ce livre, il y a peut-être des gens que je connais pas qui vont lire. Ils vont se rappeler de moi, ils vont se dire, ah, Oumaima, Alhamra, ouais, c'est vrai, j'ai lu son livre, il était bien quand même, il m'a aidé son livre, Alhamdoulilah, il m'a permis de faire ça, de changer ça, ah ouais, elle a fait du bien quand même derrière elle, cette fille, Ya Rabbi, fais-lui miséricorde, Ya Rabbi, préserve-la de l'enfer, Ya Rabbi, fais-la rentrer au paradis. Je me disais, si j'ai ça derrière moi, ben, peut-être que je pourrais, voilà, j'aurais semé ma petite graine, et même si je meurs, j'aurais les doigts des gens, tu vois, j'aurais les doigts, j'aurais laissé quelque chose qui va témoigner en bien, en ma faveur. Donc c'était cette notion-là, cette volonté-là. Donc ça m'a apaisée, tu vois, parce que j'ai vraiment ressenti, comme je disais, j'avais une espèce d'urgence. Et surtout quand j'ai eu l'idée du livre, honnêtement, j'avais une espèce de stress permanent dans ma tête qui me disait, vite, écris-le, il faut que tu publies, il faut que tu publies, il faut que tu publies. C'est comme si j'avais peur de mourir avant de l'avoir terminé. Je me disais, faut qu'il sorte vite. Et d'ailleurs, honnêtement, dès qu'il a été publié, j'ai ressenti un grand soulagement, une sérénité en mode, ok, maintenant c'est tranquille, maintenant je peux prendre mon temps, je peux avancer tranquillement dans ma vie, maintenant, tu vois, voilà. Alhamdoulilah, c'est bon. J'ai un peu pas fait ma part, mais comme si j'avais une mission à remplir et il fallait vraiment que je la fasse, c'était urgent, tu vois. Et alhamdoulilah. Et aussi, la notion, encore une fois, tu vois, par rapport à la mahabba fillah, c'est que ma mère, je l'aime en Allah. Je l'aime profondément pour Allah. Et je me dis, ben, je veux, elle m'a tellement offert, elle m'a tellement donné, elle m'a tellement apporté, elle m'a tellement. Je me disais, je veux lui donner aussi, tu vois, je veux lui rendre, je veux lui donner, je veux lui dire que je l'aime, je veux lui prouver mon amour, lui montrer mon amour, vraiment concrétiser mon amour que j'avais pour elle, filaire. Et je me disais, avec ça, ben, les gens, ils vont se rappeler d'elle. Et aujourd'hui, c'est ça.
Ah
Aujourd'hui, je
oui.
reçois toujours des messages des personnes qui me disent, ben, Allah yarhamha khaltinajia, Allah yarhamha khaltinajia, car elle fait miséricorde, je fais tout, toi. Et j'ai même reçu un message, tu sais, ce matin, qui me disait, pour la première fois de ma vie, j'ai fait des invocations pour des inconnus. Elle me dit, j'avais jamais fait ça avant. Elle me dit, pour la première fois de ma vie, j'ai fait des doigts pour toi et pour ta mère, pour Khaltinagia. Et tu vois, et après, c'est passé aussi des dingueries, hein, tu le vois dans mon livre, des personnes de mon programme MFR qui décident de faire un puits, se prendra, de faire une sadaqa jariya pour Oumi, etc., etc., tu vois. Et ça, c'est un truc qui me rend profondément heureuse de me dire que Oumi, elle reçoit ça de là depuis sa tombe, et que ben, tu vois, je me dis, elle m'a aimée quand j'étais sur terre, elle a fait beaucoup pour moi, elle avait des grands espoirs pour moi, elle a beaucoup invoqué pour moi. Tu sais, j'en parlais dans une interview que j'ai fait récemment avec une sœur, c'était marrant parce qu'elle a. Bon, bref, je vais pas faire de digression, mais grosso modo, j'en suis venue à lui dire, moi, tant que ma mère était en vie, je me sentais en sécurité, parce que je me disais, quoi qu'il m'arrive, même si je meurs, Oumi, elle va être là, elle va faire des doigts pour moi de malade. Elle va plus dormir la nuit. Déjà que là, je fais juste des examens et tout, elle pleure dans ses soujoudes. Je vais me marier, elle pleure dans ses soujoudes et tout, pour invoquer pour moi. Et je me sentais en sécurité parce que je me disais, elle a un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces doigts, ils sont tellement. Je sais pas, je sentais qu'ils étaient sincères. Enfin, tu vois, moi, j'ai vraiment l'habitude, tu sais, je te disais, j'allais dans sa petite chambre. Et je la voyais en soujoude et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. C'était presque ça tous les soirs, tu vois. Et c'est pas parce qu'elle pleurait parce qu'elle était triste et tout, elle pleurait parce qu'elle l'invoquait avec ferveur, quoi, avec émotion. Tu sais, elle a 8 enfants et tout, tu vois, t'as de quoi
Elle a de quoi
invoquer,
faire.
elle a de quoi faire. Elle
Mashallah.
faisait ça à fond. Et du coup, ça me rassurait. Je me sentais en sécurité, tu vois. Je me disais, Alhamdoulilah, elle. Et en fait, quand elle est morte, j'avais plus ça. Et c'est aussi pour ça l'urgence, c'est que je me disais. Vite, vite, faut qu'il y ait d'autres gens aussi qui fassent des doigts pour moi. Il faut que tu vois ce que je veux dire. Finalement, le livre, c'était aussi un prétexte pour ça.
Bien sûr.
Et donc, c'était une manière aussi de lui rendre ça. Je me disais, elle a tellement invoqué pour moi. Je veux faire quelque chose qui reste pour elle et qui lui permette, tu vois. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis hyper heureuse de l'avoir fait. Et en plus, je me rends compte aujourd'hui que c'était aussi une manière pour moi donc, de semer des graines, de transmettre. Et je me dis, c'est fou parce que. Elle avait tellement l'amour de la transmission, elle avait tellement l'amour de la da'wa, avec la volonté sincère d'aider son prochain, d'être au service des autres, d'aider les autres à obtenir le paradis, d'aider les autres à augmenter leur foi, à se rapprocher d'Allah, à aimer Allah, à remplir. Mais elle avait ce don, subhanallah, que quand elle te parlait, t'aimais Allah, tu vois. C'est-à-dire qu'elle te parlait d'une manière d'Allah, subhanallah, que tu terminais l'assise avec elle, tu disais, ah ouais, oh, ça te donne envie d'aller prier, d'aller l'invoquer, de l'aimer, de. Je sais pas, c'était beau, subhanallah. Je pense que c'est parce que ça venait tellement du cœur, tu vois, que. Et
Oui, et puis je pense
ouais,
qu'Allah, à force de converser avec Allah, Allah, il met quelque chose dans ton cœur qui fait qu'on va t'aimer et qu'on va ressentir l'amour d'Allah parce qu'en fait, il est dans ton cœur, en fait. Et deux choses. Juste avant qu'on commence notre conversation, je lisais dans le Coran et il y avait une ayah qui parlait d'Ibrahim, alayhi salam, et à
yes.
quel point Allah, il avait mis quelque chose entre eux. Tu vois, et tu vois, le fait que tu en parles là, je peux que faire le lien, en fait, de se dire, mais. Les gens qui ont un lien spécial avec Allah, Allah parle d'eux. Allah, il les aime, Allah, il les évoque. Et quand nous, on invoque, Allah, il nous évoque. Et auprès des anges, et parfois dans son livre, mais dans tous les cas, il va faire en sorte de nous évoquer auprès des gens qu'on aime aussi. Je ne sais pas comment dire, mais c'est-à-dire qu'on va chacun laisser notre trace parce qu'Allah l'aura permis et parce qu'on aura, Inch'Allah, créé un lien avec Allah. C'est ça, en tout cas, c'est vers ça qu'on doit attendre. La deuxième chose, c'est que tu vois, tu disais quand ta maman est partie, rahimallah, tu te sentais moins en sécurité. Mais j'ai presque envie de dire que quelque part, quand on perd quelqu'un, ça nous donne une responsabilité de
Oui.
d'accord, bon, bah, mon parapluie est parti. Ok, j'ai plus de filet de sécurité. C'est à moi de créer la amana, la confiance entre Allah et moi. Je dois reprendre ce lien. Là, je me reposais un petit peu sur le lien de ma maman parce que je sais qu'il est fort. Parce qu'il y a des gens, c'est vrai, subhanallah, tu dis, oh, lui, ses doigts, c'est sûr, elles sont entendues. Oh là 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 là, lui là, non, lui, s'il fait des doigts, c'est grâce à lui si je me suis mariée. C'est parce que lui, ses doigts, elles sont incroyables. Mais en fait, si la personne, elle part, ben, en fait, il reste que toi. Et toi, tes doigts, elles sont incroyables ou pas? Comment je peux faire pour que mes doigts, elles soient incroyables? C'est ça le but du jeu, tu vois. Et la troisième chose, c'est que tu parlais de transmission. Et bah, du coup, je voudrais m'excuser parce qu'en fait, on a fait une interview pour ton podcast il y a quelques jours. Et j'ai oublié de dire quelque chose de fondamental. C'est que moi, tu vois, le podcast, pendant plusieurs années, j'avais l'idée du podcast, du Halal Love. Pendant un an, j'ai vraiment suggéré l'idée auprès d'amis. On me disait, mais c'est génial, il faut que tu le fasses, il faut que ça sorte. Nadina, c'est urgent, on en a besoin. J'avais commencé à faire une première interview, mais j'arrivais pas à me lancer. Puis, j'ai lu Ton Dernier Regard. Je l'ai lu et je me suis dit, comment moi je veux laisser ma trace? Et c'était vraiment, tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, il faut qu'on se pose la question de pourquoi on veut faire les choses, c'est important de comprendre son intention. Donc, j'ai posé mon intention et je me suis dit, je vais le faire. Donc, j'aimerais vraiment, je demande à ce printemps-là qu'il compte le podcast et ses écoutes et ses propos, si toutefois Allah les agrée, dans la balance de Khaltinajia, parce que, et dans la tienne. Du coup, de fait, parce qu'en fait, ce travail de transmission a aussi amené à ce podcast-là, subhanallah.
Oh, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est trop beau.
Je suis désolée, j'avais oublié de te le dire. Je me suis dit, non, il faut quand même qu'on profite de cette conversation pour en parler, subhanallah. Et encore une fois, en fait, on n'est pas là pour qu'on comprenne bien et que les auditeurs qui nous entendent comprennent bien. On n'est pas là juste en train de te dire, c'est génial ce que tu fais, c'est génial ce que tu fais. C'est au contraire, on est juste en train de dire, Allahu Akbar. Allahu Akbar, c'est de dire voyons comme l'amour d'Allah, l'amour en Allah emmène loin, en fait. C'est tout ce qu'on est en train de dire, finalement.
C'est vrai. Ah, mais c'est trop ça. Subhanallah. Ouais, c'est... elle a semé des graines. Et regarde, aujourd'hui, oui. Subhanallah, ça a des résultats.
C'est le hub, c'est la graine. Ouais. Ça se voit, en fait. Ce n'est que ça. L'amour en Allah, c'est un amour graine. Et donc, là, on est sur un jardin qu'on espère, que l'on pressent luxuriant. Pour ta maman, et c'est ce qu'on souhaite, parce qu'au final, il n'y a que Allah qui sait, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut pressentir. On espère que ce qu'on pressent, c'est bien la réalité. Je voulais te reposer une question par rapport à ton ouvrage, Oumaïma, c'est que, en fait, j'en avais parlé dans l'épisode qu'on a fait avec Hélène autour de ton ouvrage, Hélène à qui on passe un grand salam, parce qu'on sait, Inch'Allah, qu'elle passera par là. Et j'avais expliqué durant cette conversation que, moi, ton ouvrage, je l'ai d'abord offert à des gens que j'aime, qui avaient perdu leur maman. Parce que je me dis, ah, bah, ça parle de la mort, donc je suis sûre que ça les aidera. Et en fait, grossière erreur, enfin, c'est pas une erreur d'avoir offert le livre, pas du tout, mais c'est une erreur que d'avoir pensé que c'est uniquement pour les gens qui ont perdu quelqu'un. Ce livre, il est à mettre entre les mains de toute personne qui va mourir, donc de tout le monde. Parce qu'en fait, encore une fois, même le dernier des athées, il ne peut que attester que la mort est vérité. Tu peux te faire croire ce que tu veux, tu es dans le déni, c'est bien, mais par contre, le fait que la mort, c'est une vérité pour tout le monde, ça, même toi, tu peux pas le nier. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé très, très fort dans ton livre, c'est qu'effectivement, on ressort de cet ouvrage-là avec un rapport, je trouve, plus sain et plus serein avec la mort. Ma question, c'est, est-ce que tu as toujours... Enfin, on ressort avec ce rapport-là du fait de ton rapport à toi, en fait, avec la mort. Donc, ma question, c'est, est-ce que tu as toujours eu ce rapport-là et sinon, comment tu es parvenu à ça et comment le cultiver surtout? Comment faire en sorte qu'on accueille la mort et en se disant je peux faire de ma mort le plus beau jour de ma vie et de la vie de mes proches?
Question super, super intéressante et super pertinente. Je te remercie. Alors, en fait, non, j'avais pas ce rapport-là. Alors, alhamdoulilah, tu vois, mais j'ai grandi dans le rappel, mes parents, etc. Mais les rares fois où j'avais fait face à la mort, tu vois, j'ai perdu mon oncle, des choses comme ça quand j'étais au lycée. Non, c'était super difficile, c'était super douloureux. Enfin voilà, et puis même moi, penser moi à la mort, c'était quelque chose qui était quand même très angoissant. Non, j'avais pas du tout ça. En fait, avec la mort de ma mère, j'ai eu un nouveau regard sur la mort. J'ai ressenti les choses d'une manière auquel je ne m'attendais pas. Alors bien sûr, il y a quand même eu le deuil. Je tiens quand même à le préciser, je le précise à chaque fois. La mort était incroyablement belle. J'ai passé un merveilleux moment. C'était un truc de fou, tu vois. Après, le deuil a été extrêmement douloureux. J'ai souffert. Je pense même avoir fait une dépression et tout. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Dans le sens où le deuil, c'est un autre travail. Le travail du manque, etc. C'est autre chose. Mais en tout cas, le moment de la mort avec ma mère, je savais même pas que c'était possible de ressentir de la joie au moment où quelqu'un meurt. Non pas parce que t'es sadique ou que t'aimes pas la personne, mais parce que tu es heureux de voir que la personne a une belle fin. Voilà, moi, le fait d'avoir vu ma mère qui était normalement dans l'incapacité de faire la shahada et de voir qu'elle articule la shahada alors qu'elle ne bougeait pas, elle était comme paralysée, c'était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire. On est dans une autre dimension, tu vois. Et je me disais, subhanallah, et juste avant que l'âme sorte, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'elle a fait juste avant que l'âme sorte du corps. Et je me suis rappelé, tu vois, que celui qui prononce la shahada juste avant la mort, bah, il rentre au paradis. Et donc, en fait, j'ai pris conscience de tout ça et j'étais heureuse. Tu sais, c'est comme, je sais pas moi, tu découvres que quelqu'un, voilà, il a passé le bac, il a eu une mention excellente, ou je sais pas quoi, mention très bien. Et après, il va devoir quitter, il va faire ses études au Canada. Tu vas plus le voir, mais tu es trop heureuse pour lui parce qu'il a eu il y a une super nouvelle, il y a quelque chose de beau, tu vois. Donc moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Et en fait, à partir de là, mon rapport à la mort a changé. Ah oui, autre chose surtout. Au-delà de la joie, j'ai ressenti en fait un truc que j'avais jamais ressenti avant, que j'ai jamais ressenti après. C'est la rahma. En fait, c'est la rahma, c'est la joie, c'est la rahma. Et cette joie et ce que je ressentais là ne venait pas de moi, elle venait de l'ambiance de l'extérieur. Je pense vraiment que dans le monde de l'invisible, il se passait des dingueries, quoi. Il se passait vraiment des trucs de ouf. En fait, l'accueil de l'âme, etc., les anges qui viennent pour accueillir l'âme, qui se sentent bons, qui sont beaux, qui sont vêtus en blanc, qui sont là en fait pour la rassurer et tout ça. Et ils étaient là, et je pense qu'ils aimaient ma mère, parce que je pense qu'ils ont dû la connaître de son vivant, parce qu'elle faisait beaucoup d'assises de rappel, et tu vois, les assises de rappel, les anges viennent, etc. Donc je pense que c'était une personne qui n'était pas connue qu'ici-bas, je pense qu'elle était connue aussi dans l'univers des anges. Et tu vois, je me disais, bah en fait, cette joie peut-être qu'eux ont ressenti, cette rahma d'Allah, en fait, tout ça qui se passait dans le monde de l'invisible, en fait, dans le monde visible, on y a goûté un peu, tu vois. je pense qu'on a goûté un peu. Et du coup, ça m'a transformée. Déjà, j'ai ressenti un profond amour pour Allah où je me suis dit, waouh, Allah, il est tellement, tellement plein d'amour et de rahma. Et en fait, j'ai eu ce sentiment que les gens, ils ne savent pas, tu vois. Je me suis dit, mais même moi, je ne savais pas. C'est-à-dire qu'on le sait, Allah, c'est le Rahman, le Rahim. C'est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est le plein d'amour, c'est le compatissant, etc. Mais je me suis dit, punaise, les gens, ils ne savent pas à quel point c'est le cas. Je ne sais pas comment t'expliquer, en fait. Et ça m'a donné un élan d'amour, tu vois. Et, et ça m'a rassurée, ça m'a réconfortée, ça m'a rassurée. Je me suis dit, oh là là, mais si moi, on me disait que je pouvais être accueillie comme ça après ma mort, je serais prête à mourir tout de suite, en fait. Et j'avais jamais ressenti ça, jamais je dirais ça, tu vois. D'ailleurs, aujourd'hui, je me dis, oh là, ma foi, elle va pas, c'était ce moment-là, tu vois, j'avais une foi élevée et tout, j'avais ce truc. Mais c'est vrai que si tu me dis, voilà, tu meurs et t'as une super belle fin, et t'es accueilli avec comme ça, et que tout le reste se passe bien pour ton akhira, mais bah vas-y, quoi, oui, je pars, tu vois. Et en fait, ça, je l'avais vraiment découvert avec la mort de ma mère. Et après, subhanallah, après la mort de ma mère, tu vois, j'ai eu plusieurs expériences, deux amies. Il y en a une, donc, Marim Rabbi Rahamha, je ne l'ai pas vue au moment de la mort. Mais je l'ai vue, donc elle était toute jeune, elle avait 25 ans, et je l'ai vue à l'hôpital sur la fin. Donc son cancer était en phase terminale, elle commençait à rentrer en agonie. Je crois qu'elle n'était pas encore en agonie, mais presque, tu vois, elle n'était pas toujours consciente et tout. Et je suis venue la voir à l'hôpital, c'était dur, c'était l'hôpital de ma mère, c'est là où elle faisait sa chimio et tout, j'avais peur, Et tu vois, je viens vers elle, je prends mon courage à deux mains, j'y vais, je voulais trop trop la voir avant qu'elle parte, parce que c'était vraiment la fin. Et là, je la vois et je suis tellement heureuse parce que. Donc elle souffre, hein, c'est fin de vie et tout ça, mais je ressens une sérénité autour d'elle, je ressens une sakina, je ressens quelque chose de particulier. Et en plus, je parle avec elle, elle me parle un petit peu et elle me dit « Oui, même Aniradia, tu vois, je suis satisfaite de ce qu'Allah me donne, Allah il m'aime, tu vois, elle avait des paroles tellement belles et ça m'a rassurée, ça m'a réconfortée. Et quand elle est morte, je me suis dit « Non, alhamdoulilah, c'était une croyante pieuse, elle aimait Allah, elle avait confiance en lui, c'est une belle fin, bi'idhnillah, vraiment qu'Allah nous remise avec elle, ufadous l'a'la. »
Amin.
Et encore, ma dernière expérience, c'était pendant Ramadan. J'ai perdu une amie qui, d'ailleurs, était... je sais pas si je parle d'elle dans le livre, je ne me rappelle plus, mais elle était proche de ma mère. Et ma mère se battait contre son cancer du côlon et elle contre le cancer du sein. Et tu vois, donc, finalement, elle est morte que maintenant. Elle est morte récemment. Elle s'entraidait beaucoup. Ma mère l'appelait tout le temps. Elle lui donnait des graines, elle lui donnait ses trucs. Ma mère, la naturopathie, tout ça. Bref, elle partageait les conseils avec elle. Et subhanallah, tu vois, cette sœur, elle est morte récemment. Et je suis allée la voir et j'ai vu son visage après la mort, donc, et j'étais tellement heureuse, je te jure, j'ai pleuré de joie parce que j'ai ressenti, elle avait un sourire, elle avait une lumière et tout, et j'étais heureuse pour elle. J'ai dit alhamdoulilah, 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 rabbil hamdoulilah, hakima, parce que vraiment j'ai senti. Mais après, tu vois, elle s'est battue pendant longtemps, elle a été patiente, c'était une femme forte. Quelque part, elle me rappelle Oumi, et je me suis dit waouh, tu vois, ça se voyait qu'elle avait une belle fin. Et après, tu vois, j'ai parlé avec les belles sœurs et tout, et pareil, elles m'ont dit machallah. Et de toute façon, j'ai senti juste après, tu vois, j'ai fait le podcast, il y a plein de gens qui ont invoqué pour elle, subhanallah, enfin, tu sens le signe d'une belle fin, en fait. Et beaucoup de gens m'ont contacté d'ailleurs en privé, en DM, pour me dire mais je la connais, mais c'est ma cousine, je la connaissais au lycée, je la connaissais, oui, c'était une belle personne et tout.
Regarde. Parce qu'en fait, pour les gens qui ne savent pas, cette personne, rahimallah, elle est décédée pendant le mois de Ramadan, non, je pense. Oui, c'est ça, 2023. Et donc, du coup, tu as fait toute une série de podcasts sur la mort. Mais c'était vraiment des épisodes passionnants.
Elle a été la cause.
Elle a été la cause. Exactement. Donc, je vais vraiment le préciser pour les personnes qui souhaitent aller se délecter des podcasts-là. Et pourquoi je me permets de dire ça, c'est parce que, tu vois, je t'entends depuis tout à l'heure et je me rappelle, en fait, pourquoi j'aime autant ton livre. Parce que c'est des livres qui, c'est pas qui t'aiment à aimer, qui t'aident à aimer la mort, mais qui t'aident à comprendre à quel point tu aimes la vie qui nous attend après, en fait. À quel point tu aimes Allah pour sa rahma, à quel point ça vaut la peine de se battre, à quel point les tracas que tu peux ressentir ou les contrariétés qui t'empêchent d'aimer l'être aimé ou tes enfants ne sont rien par rapport à toutes les récompenses qui peuvent être données par la suite. C'est ça que j'aime dans ton ouvrage, c'est ça que j'aime dans ton propos, et je pense que c'est pour ça que Allah a permis, Allahu a'lam, mais peut-être que c'est pour ça qu'Allah a permis que ton ouvrage il aille si loin et qu'il se retrouve entre autant de mains. C'est parce que les rappels, je trouve, c'est personnel, hein, mais les rappels sur la mort, moi je les trouve tellement efficaces. Je me souviens que tu as dit dans un de tes épisodes de podcast, tu as cité un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait l'homme le plus intelligent c'est celui qui se rappelle le plus souvent de la mort, et tu disais soyons des êtres intelligents. Et je me suis dit oh, c'est tellement juste, C'est vrai que quand plus tu nies en fait le fait que tu vas mourir, plus tu es dans un espèce de déni qui t'emmène loin, loin, loin dans la dunya, à faire des erreurs, à t'éloigner d'Allah. Alors qu'en fait, plus tu es au contact de la mort, plus tu te dis mais c'est pas grave en fait, c'est quoi la mort face à ce qui nous attend? C'est une pause en fait, c'est une pause avant les grandes retrouvailles. D'ailleurs, je crois que tu le dis dans la dédicace que tu fais, dans l'espoir de nos retrouvailles, je crois. Mais il y a de ça, en fait. Et je te remercie encore une fois de le repréciser, parce que je pense que c'est ça l'essence de ton livre, en fait. C'est la mahabba fillah, évidemment. C'est l'amour d'Allah plus que tout. Et c'est le fait d'accueillir la mort comme une étape qui va te permettre de rencontrer ton Seigneur. Donc, une belle étape. Inch'Allah. En espérant qu'on le rencontrera dans les meilleures conditions.
Inch'Allah. C'est très beau, c'est très bien dit. Merci beaucoup. Franchement, je... Alhamdoulilah, tu vois. Alhamdoulilah qu'Allah m'ait permis de le faire et de le transmettre de cette manière. Et vraiment, ça vient de lui, tu vois. Moi, j'avais l'idée et tout, j'avais l'intention. Parfois, l'intention, c'est... J'ai envie de te dire, c'est tout, parce que...
Oui.
Parce que toi, tu mets l'intention, puis après, Allah, il te donne l'inspiration.
Il te donne les outils, ouais.
Ouais. Et vraiment, moi, j'ai senti, parce que j'ai écrit mon livre d'une manière particulière, qui est le lâcher prise. Je crois qu'il y avait une question par rapport à l'écriture de mon livre, je ne sais pas si...
Ouais, tout à fait, exactement. En fait, je voulais comprendre, bah, justement, tu peux nous en parler, quel a été ton processus d'écriture, parce qu'en fait, c'est un écrit qui mélange... le storytelling, les faits réels, t'as quand même des grandes figures de style, et puis même t'as des techniques d'écriture, pas des techniques d'écriture, mais on sent que l'arc narratif a été travaillé, etc., qu'il y a des passages, des flashbacks. Comment tu fais pour réunir tout ça dans un même livre en n'oubliant jamais, jamais, jamais l'amour d'Allah, la présence d'Allah? C'est rare. Ton livre, c'est un hors-série, en fait. Tu vois, c'est un exercice de style, subhanallah. Encore une fois, on remercie Allah pour tout ça, mais comment tu as travaillé ça, en fait? Parce que moi qui écris modestement 3 ouvrages, je peux te dire que quand j'écris, je ne lâche pas prise. C'est-à-dire que moi, en plus, tu disais, oui, j'étais soulagée quand j'ai fini d'écrire mon livre. J'étais en mode, bah, tu m'étonnes, c'est tellement relou d'écrire un livre. Mais ça, ce sera une discussion pour une prochaine fois. Mais ouais, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le processus d'écriture? Parce que je suis sûre que ça intéressera beaucoup de gens.
Ouais, et puis j'aime trop parler de ça. En fait, il y a plein de... Bon, en vrai, de vrai, le process, on va pas se mentir, ça peut faire l'objet d'un autre épisode qui peut durer une heure.
Tout à fait, vraiment. Tout à fait.
Mais je vais essayer d'aller dans l'essentiel. Grosso modo, il y a plusieurs étapes. Avant tout, il y a l'étape de pourquoi je fais ça, quelle intention, à qui je m'adresse, quel message je transmets, quelle valeur je transmets, quelle émotion je veux transmettre, c'est quoi la finalité. En fait, ce travail-là, je remercie vraiment celle qui m'a accompagnée, parce que je pense que si elle ne m'avait pas accompagnée dessus, je ne l'aurais jamais fait. Ça ne me vient pas à l'esprit, tu vois. À la rigueur, faire le plan du livre, d'accord. Mais réfléchir à pourquoi et tout ça, peut-être je l'aurais fait vite fait, ouais, je le fais pour Allah, c'est tout. Mais en fait, non, là, j'ai fait un énorme travail profond d'introspection de pourquoi, pour qui, les valeurs que je transmets, l'émotion, c'est quoi les 1, 2, 3 mots-clés de mon livre, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, d'ailleurs, pour info, moi, dans mon livre, qu'est-ce que je voulais? Je voulais à la fois le côté sakina, rahma, le truc où tu te sens plein, tu te sens apaisé, douceur, bienveillance, tout ça.
Ouais, ça se ressent beaucoup.
Je voulais aussi le déclic pour passer à l'action après, pour te dire, ah non, 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 mais là, je vais me bouger, en fait, tu vois, créer un déclic, il est là. Il y avait aussi le couper, à couper le souffle. Je voulais un truc où tu te dis, oh, tu peux pas t'arrêter de lire, t'es en mode, oh, c'est pas possible, ah, je voulais ce truc-là aussi, subhanallah. Donc ça, c'était un peu mes petits mots-clés, mes trucs. Et mine de rien, ça joue énormément, parce que même si, une fois que tu les as notés, ça y est, moi, je relisais pas mes notes, hein, mais c'est comme si, inconsciemment, tu mets une direction à ton inconscient. Et moi, je travaille beaucoup avec
ton... C'est une carte, en fait. Ouais.
Ouais.
Et puis c'est une carte où quand tu te perds, tu peux te retrouver parce que tu sais ce que tu as en tête, en fait. Tu te dis, mais non, mais je voulais aller là. Relis ta carte, Oumaïma. Tu vois, tu n'as pas besoin de relire tes notes, mais elle est dans ta tête, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est la première étape. La deuxième étape, c'était un plan. Tu vois, c'est de faire un plan, de me dire, ok, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais parler de ça. Donc, ok, tu vois. Donc, il a fallu quand même que je fasse ce travail. Par exemple, le chapitre 1, honnêtement, à la base, il n'existait pas vraiment. Je l'ai fait parce que j'ai voulu partager un moment la vie de ma maman. dont j'avais vaguement souvenir. Tu vois, c'est le passage un peu où j'ai dû un peu broder, pas broder, mais je rentre dans la tête de ma mère, quoi. Donc, je ne savais pas moi ce qu'elle pensait. Mais je connais ma mère aussi, voilà. Donc, je me suis dit, c'est des choses qu'elle pourrait penser, qu'elle pourrait dire, qu'elle pourrait vivre et tout. J'avais des souvenirs de moi quand j'étais ado. Et puis, en tant que mère aujourd'hui, je me suis aussi reconnue en elle. Et donc, mais j'ai voulu parler de ce passage, tu vois, parce que pour les mamans, en fait, pour les mamans burn-out, tout ça, mais si ça peut les aider. Mais bon, bref, voilà. Mais j'ai travaillé sur ce plan-là, ok. Voilà, donc pour savoir à peu près une direction où aller et tout, ne pas après me... Parce que moi, je suis du genre à faire des digressions et franchement, je peux si je me dis pas un point d'arrivée, je peux aller, mais où ? À l'opposé, tu vois. Je me réveille, je sais même plus où je suis. Donc non, il faut un plan. Et par contre, une fois que j'avais le plan, ce que j'ai fait, grosso modo, pour être rapide, c'est que j'ai écrit mon livre le premier jour en un mois et demi. Un mois et demi, c'est quand même très court.
Waouh, c'est hyper court. Ah ouais, carrément.
Tu vois, c'est hyper court. Ouais. En plus, j'écrivais pas toute la journée. J'écrivais 1 à 2 heures le matin au Fajr. C'était après ma routine Fajr. Ce que j'ai fait pour être... En fait, je sentais que... Moi, je voulais que ce soit très fluide. Je voulais un livre qui se lise d'une traite. Quelque chose de fluide. Il ne fallait pas que ce soit haché, tout ça. Que... Ce n'est pas le mental qui lit, c'est le cœur qui lit. C'est... Et du coup, je me disais... J'ai senti inconsciemment, instinctivement, que du coup, il fallait que ce soit très, très, très court, intense, etc. Et donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que... Le matin, j'avais une espèce de rituel du Fajr, donc j'avais ma spiritualité, voilà, ma masterclass, les invocations, tout ça d'abord. Et ensuite, j'avais un rituel qui m'aide à lâcher prise, parce qu'au départ, j'avais beaucoup de blocages, j'arrivais pas à lâcher prise. Et en fait, parce que moi, mon but, c'est que je ne réfléchis pas. Mon mental est coupé, doit être éteint, et le clavier doit écrire tout seul, mes mains doivent écrire tout seul. C'est mon cœur qui écrit, qui parle à mes mains, c'est mon cœur qui parle à mes mains. Il faut que ça soit très fluide. Et donc, il ne faut vraiment pas que je réfléchisse, parce qu'en fait, j'ai fait un premier chapitre 1 qui est complètement raté, parce que j'écris avec ma tête, et chaque mot était réfléchi. Et du coup, c'était haché, ça n'allait pas. Celle qui m'a accompagnée, ma coach, elle m'a dit, Moïma, je lis tes mails du lundi, ça n'a rien à voir, il y a un problème. Lâche prise, là, t'es trop dans la peur du regard des autres, la peur de décevoir et tout. Donc, j'ai laissé tomber. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'était d'écrire sans affirmation, qui me rappelle pourquoi j'écris ce livre. Là, j'écris ce livre pour moi. Là, j'écris ce livre pour que ça soit une sadaqa jariya pour Oumi. Là, j'écris ce livre parce que j'aime Oumi. Là, j'écris ce livre parce que j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Là, j'écris ce livre pour nana. Bref, voilà. J'ai écrit un peu, je les ai écrits en vrac, hein, sans affirmation. Et en fait, tous les matins, juste avant d'écrire, je me mettais devant la fenêtre et tout, je regardais un petit peu le ciel et tout, c'est un truc qui m'inspire vachement. Et je lisais mes affirmations avec énergie, avec la motivation, avec l'amour, avec la confiance en Allah, avec tout ça. Et ensuite, tout de suite après, j'avais mon petit rituel, mon café, mon jus d'orange, mon carré de chocolat noir, ma petite plante verte sur ma table de la cuisine. Je mettais tout ça en place. Donc, c'était tout. Hein, tu vois, c'était après le jeûne. Et hop, je commençais à écrire. Et j'écrivais sans réfléchir. J'écrivais en mode ta-ta-ta-ta. Tu vois, c'était vraiment le cœur qui parle, le cœur qui parle, le cœur qui parle. Il fallait vraiment être dans le lâcher-prise. De toute façon, dès que je sentais que j'écrivais plus en mode lâcher-prise, mais que j'écrivais avec ma tête, je m'arrêtais. C'est bon. C'était pas le... Et en fait, ce que je faisais, c'est que... Donc, j'écrivais le matin. Toute la journée, ben, voilà, je repensais plus ou moins ce que j'avais écrit, tout ça. Je pense qu'inconsciemment, j'essayais de trouver mes prochains trucs et tout. Et en fait, la nuit avant de dormir, je lisais ce que j'avais écrit jusque-là, ce que j'avais écrit le jour même et tout. Et en fait, je savais que toute la nuit, mon inconscient allait travailler pour qu'au moment où je refasse mon rituel du matin et je me mette à écrire, ça soit ultra fluide. Tu vois ? Et alhamdoulilah, c'est comme ça que ça s'est passé. Et franchement, du coup, ça a été... j'ai vraiment... Ça a été fluide, quoi. Et c'est pour ça que ça se lit facilement. C'est parce que ça s'est écrit comme ça, dans un seul mood. Et d'ailleurs, après coup, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah mais mince, il y a ce passage que je voulais raconter, il y a des choses que je voulais raconter. Et en fait, je pouvais plus les mettre. Parce que sinon, ça allait casser le rythme, en fait. Je sentais que si je rajoutais un truc, ça allait tomber comme ça, plouf, tu vois. Ah mais comment ça s'accroche au reste.
Ouais, t'avais trouvé la version finale, en fait, subhanallah. Non, mais c'est magnifique. Et en plus, pour confirmer, tu disais, je voulais que mon livre soit facile à lire. Dans ma tête, je suis en mode check. Je voulais que mon livre permette de passer à l'action. Check. Je voulais que mon livre rayonne de l'amour d'Allah et qu'il se foutit cocon. Check, check. Donc, bravo, Maïma. Bravo, parce que je pense que ce n'est pas toujours facile d'avoir du recul par rapport à son travail. Mais. Je pense, je me permets de parler pour au moins pour mes sœurs et moi, voilà. Pour les autres, je ne me permettrai pas. Au moins pour mes sœurs et moi, pour te dire merci, barakallahu fik, merci d'avoir accepté. Ma chère, merci d'avoir accepté la mission qu'Allah il t'a donnée. Parce qu'en fait, ce n'est que ça, en fait. Quand on fait des projets, on accepte les missions qu'Allah nous donne. Donc, merci d'avoir accepté la tienne, parce que ça a permis à beaucoup, beaucoup de gens de se retrouver. Ça a créé des discussions dans les familles autour de la mort, autour de la religion, autour d'énormément de choses. Et Dieu sait à quel point c'est important. Je crois que c'est ce qu'on dit, un cœur dans lequel il y a Allah versus un cœur dans lequel il n'y a pas Allah, c'est l'équivalent d'un cœur vivant et d'un cœur mort. Et c'est pareil pour les maisons, en fait. Les maisons, on parle d'Allah, et les maisons, on ne parle pas d'Allah. Ça ne donne pas les mêmes foyers. Donc, merci de nous avoir permis de réalimenter nos foyers et d'avoir réintégré Allah dans nos foyers. Je ne vais pas te prendre plus de temps parce que tu parlais de nos vies de vos vies de maman, hein, parce que je ne suis pas concernée. Et je sais que ta vie de maman doit reprendre ses droits. Donc, je tiens quand même à te remercier encore une fois, Omeima, de ta disponibilité, de ta gentillesse, de ta sincérité. Et ton merveilleux travail, qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala te récompense grandement pour tout ça, vraiment.
Oui, merci beaucoup, beaucoup. Vraiment, je suis très touchée par tes paroles. Qu'Allah te préserve, ma belle. Ouais, il faut que j'y aille là.
On est d'accord. On vous dit tout comme d'habitude. Voilà. Mais écoute, Umayma, à très très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaikum salam wa rahmatullah.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème. Abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doigt. Qu'Allah Zawajel vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.